Vous êtes avec SBS French.
Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 15 septembre. Pour la première fois en 64 jours, l'État du Victoria ne recense aucun décès lié au coronavirus. Et puis, le retour à la normale se précise pour le Victoria régional. Ce sera à partir de jeudi. Au Japon, le nouveau Premier ministre devrait être confirmé dans ses fonctions dans le courant de la semaine. Et hier, première journée du sommet entre la Chine et l'Union européenne, marquée notamment par les exigences des Européens en matière de droits de l'homme. Nouveaux cas de coronavirus aujourd'hui dans le Victoria, mais en revanche, aucun nouveau décès. C'est la première fois en 64 jours que ça arrive. Une bonne nouvelle qui s'ajoute à une autre pour le Victoria régional. En gros, l'ensemble de l'État, à l'exception de Melbourne, où toutes les restrictions pour le Victoria régional donc, vont être levées à partir de jeudi. Le Premier ministre de l'État, Daniel Andrews, est à juste titre ravi.
And to see regional Victoria down to 3.9 cases, that means they are on the cusp of taking that next step. All things being equal, there's just a couple more days we need to get through, but we are very pleased.
Et dans les Nouvelles-Galles du Sud, en revanche, les autorités ont décidé de serrer un peu plus la vis, alors que les températures remontent au cours des prochains jours, et à vrai dire, on est maintenant le printemps, donc elles ne vont faire que continuer à monter. Les autorités craignent que des rassemblements de plus en plus importants augmentent, et du coup, les amendes en cas d'infraction, elles aussi, ont augmenté. Vous le savez, actuellement, en Nouvelle-Galles du Sud, les rassemblements de plus de 20 personnes sont interdits. C'est toujours le cas, mais depuis hier soir, tous ceux qui enfreindraient cette règle pourraient recevoir une amende de 1 000 $. Jusqu'à présent, seul celui ou celle qui recevait plus de 20 personnes chez lui ou dans une salle était verbalisé. Alors en revanche, on se dirige vers un assouplissement aux frontières de l'Australie méridionale. Le gouvernement local envisage de lever la quarantaine obligatoire actuellement imposée à tous ceux arrivant de Nouvelle-Galles du Sud ou de Canberra, ou plus largement de l'État de la capitale fédérale, le territoire de la capitale fédérale, pardonnez-moi. Une annonce officielle sur le sujet doit intervenir plus tard cette semaine dans cet État, l'Australie méridionale qui, elle, ne compte actuellement aucun cas actif de coronavirus. Et toujours en Australie, Scott Morrison a annoncé aujourd'hui sa stratégie énergétique et son intention en particulier d'investir massivement dans le gaz naturel, une ressource dont l'Australie possède des réserves immenses et qui, selon le Premier ministre, va jouer un rôle clé dans la relance de l'économie. Alors l'Australie est déjà l'un des plus grands producteurs et exportateurs mondiaux de gaz naturel liquide, mais Scott Morrison souhaite également développer son utilisation ici en Australie pour produire de l'électricité. Il fait d'ailleurs pression sur les principaux distributeurs du pays et menace de leur imposer la construction en Nouvelle-Galles du Sud d'une centrale à gaz si ceux-ci ne s'engagent pas d'eux-mêmes à remplacer les plus vieilles centrales à charbon toujours en activité. Alors il leur a fixé un ultimatum, 7 mois, pour remplacer l'équivalent de 1000 MW de production d'électricité. Ces 1000 MW sont actuellement générés par du charbon. Il veut donc qu'elles soient remplacées par des centrales des centrales fonctionnant avec des énergies propres, comme par exemple donc le gaz naturel. Il s'est montré très clair, si le secteur privé ne le fait pas de sa propre initiative, le gouvernement prendra le relais.
Now, while the private sector has announced projects which could fill this gap, at this stage, it is committed to very few. But the physical realities of aging generators mean we just can't hope for the best. If the energy companies choose to step up and make these investments to create that capacity, great, we will step back. If not, my government will step up and we will fill the gap, should the market not deliver.
30 milliards de dollars et plus de 145 000 emplois perdus, ce sont les conséquences que pourrait avoir la réduction du dispositif JobSeeker, d'après une étude compilée par le cabinet Deloitte Access Economics qui s'est penché sur la question pour le compte de l'Australian Council of Social Services. Alors, ce dispositif de maintien dans l'emploi, il a été introduit par le gouvernement au début de la pandémie et il a permis de contenir l'envolée du chômage, mais aussi de maintenir l'économie à flot en versant 1 500 dollars tous les 15 jours à toutes les personnes dont l'activité professionnelle a dû être interrompue en raison du confinement et des différentes restrictions pour certaines parties de l'Australie toujours actuellement en place. Sauf que ce versement, eh bien, il est censé diminuer à partir du 25 septembre de 300 dollars et ça risque de provoquer une chute assez nette de la consommation en Australie. Toujours selon le cabinet Deloitte, la suppression totale de JobSeeker pourrait également entraîner un recul d'un point de PIB. À l'international, le nom du futur Premier ministre japonais ne fait désormais quasiment plus aucun doute. Ce devrait donc être, sauf énorme surprise, l'actuel porte-parole du gouvernement, Yoshihide Sugo, qui devrait remplacer Shinzo Abe, qui lui a décidé de démissionner pour des raisons de santé. Son successeur, donc, qui doit être officiellement investi par la Diète, le Parlement japonais, dans le courant de la semaine, eh bien, il est âgé de 72 ans et va se retrouver à la tête d'un pays où on compte plus de 70 000 centenaires. Alors, qu'en pensent les jeunes japonais? Se sent-il représenté par ce monsieur déjà d'un âge avancé? C'est la question qu'est allé leur poser Bruno Vidal, le correspondant de RFI au Japon.
C'est un record mondial. Au Japon, le pays aux 70 000 centenaires, 28% de la population a 65 ans ou plus. Comme donc Yoshihide Suga, qui fêtera ses 72 ans en décembre. Pour cet okéite âgé d'une vingtaine d'années, la classe politique devrait être rajeunie.
J'espère que malgré son âge, il aura à cœur de faire en sorte que nous, les jeunes, nous puissions enfin trouver une place dans ce pays de vieux.
Comme beaucoup de jeunes, j'essaie de suivre un peu l'actualité et donc de m'intéresser à la politique notamment. Mais nos politiciens m'ont toujours semblé, comment dire, si distants, si éloignés de nos préoccupations et des problèmes qu'on vit au quotidien.
Pourvu qu'ils fonctionnent moins en vase clos que Shinzo Abe, nos hommes politiques me donnent l'impression de s'intéresser moins aux citoyens qu'à eux-mêmes et à leurs petits jeux de pouvoir. Il y a chez eux un terrible déficit d'écoute des gens en général et des jeunes en particulier.
Selon le sondage, un jeune japonais sur deux ne se sent pas bien représenté politiquement par les élus. Shinzo Abe a abaissé l'âge du droit de vote de 20 à 18 ans. Mais lors du dernier scrutin national l'an dernier, moins d'un jeune électeur sur trois s'est rendu aux urnes. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
En Californie, les incendies qui ont détruit déjà plus de 2 millions d'hectares et causé la mort d'une trentaine de personnes continuent de faire rage. Le président Donald Trump, qui s'est rendu sur place, a pour sa part mis en cause la mauvaise gestion des forêts dans cet état le plus peuplé des États-Unis. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, estime pour sa part que la violence de ces incendies est avant tout attisée par le changement climatique.
We come from a perspective, humbly, where we submit the science in and observed evidence is self-evident that climate change is real and that is exacerbating this.
Et sur ce sujet, Joe Biden, le candidat démocrate à l'élection présidentielle, s'est également exprimé. Il a traité Donald Trump d'être un pyromane du climat. Et rappelons qu'il y a donc sur la côte ouest américaine toujours actuellement plus de 30 feux actifs en Californie, dans l'Oregon et également dans l'état de Washington. En Europe, de plus en plus de médecins s'accordent sur le fait que l'opposant russe Alexei Navalny a bel et bien été victime d'un empoisonnement au Novitchok. Le président français Emmanuel Macron, lui, a dit qu'il s'agit clairement d'une tentative d'assassinat. Des accusations que pour l'instant récuse totalement le Kremlin. On fait le point avec Anastasia Becchio de Radio France Internationale.
Des accusations non étayées qui ne reposent sur rien. Voilà comment Vladimir Poutine a réagi aux propos d'Emmanuel Macron. Le président français s'est entretenu ce matin avec son homologue russe au téléphone et lui a demandé que toute la lumière soit faite sans délai sur la tentative d'assassinat d'Alexei Navalny. La Russie s'en tient à sa version. Les analyses effectuées au moment de l'hospitalisation de l'opposant à Omsk en Sibérie, avant son transfert vers l'Allemagne, n'avaient révélé aucune substance toxique dans son organisme. Comme l'avait auparavant exigé la diplomatie russe, Vladimir Poutine a réclamé que Berlin fournisse les échantillons biologiques ayant permis aux spécialistes allemands de pointer du doigt une substance de type Novichok. Mais l'Allemagne préfère passer par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques dont la Russie est membre. Elle pourra donc, à ce titre, prétendre aux résultats de l'enquête de l'OIAC qui a prélevé des échantillons à l'hôpital de la Charité à Berlin. Ces derniers développements ne risquent pas d'améliorer les relations entre la France et l'Allemagne d'un côté et la Russie de l'autre. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, était attendu ce mardi en Allemagne. Visite annulée par la partie russe, Berlin et Moscou ne semblent plus avoir grand-chose à se dire.
Au large de la Grèce, trois personnes, vraisemblablement une mère et ses deux enfants, sont morts noyés à bord d'un bateau qui était chargé de migrants qui tentaient de rallier l'île de Crète. 56 autres personnes ont, elles, survécu. Et sur l'île de Lesbos, où un immense camp a brûlé la semaine dernière, plus de 10 000 personnes sont actuellement sans domicile fixe. Ils dorment dans la rue. Ces demandeurs d'asile, ils manifestent, ils réclament l'autorisation de se rendre en Europe continentale. Au cours de la manifestation qui a eu lieu il y a quelques heures, ils ont notamment réclamé la fin de ces camps de détention, mais aussi la liberté. Écoutez-les chanter. En Europe toujours, l'ouverture hier d'un sommet entre la Chine et l'Union européenne. Au menu, plusieurs questions d'ordre économique, mais aussi des sujets très politiques, notamment la question des droits de l'homme, à propos de laquelle les 27 de l'UE ont présenté un front uni ce lundi. Ça a été le principal sujet des discussions de cette première journée. On va écouter les explications de Pierre Benazet pour RFI.
Pour les Européens, les tensions sino-américaines confèrent à l'UE un rôle capital vis-à-vis de la Chine comme partenaire économique. Ils ont choisi de s'en prévaloir pour évoquer avec le président chinois les sujets qui fâchent, leur inquiétude quant aux pressions chinoises à l'encontre de la souveraineté de Taïwan, leur désir de voir la Chine en revenir à ses engagements et respecter l'autonomie d'Hong Kong et la démocratie dans ce territoire, leur préoccupation pour les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes, ou encore les droits de l'homme pour les minorités du Tibet et du Xinjiang. À ce sujet, ils ont d'ailleurs proposé au président chinois d'autoriser l'accès d'observateurs indépendants au Xinjiang pour vérifier quel est le traitement réservé à la communauté ouïghour. Les 27 pays membres de l'Union européenne s'étaient mis d'accord avant ce sommet en visioconférence pour parler d'une seule voix et envoyer ce qu'ils estiment être un message fort à la Chine, qu'il n'est pas possible d'avoir des relations économiques et commerciales sans devoir en contrepartie accepter de débattre des questions politiques. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
En Israël, la condamnation hier d'un colon qui avait tué trois Palestiniens. Les victimes, un bébé et ses parents, avaient été tués il y a 5 ans dans un territoire occupé au nord de la Cisjordanie. Le verdict a été prononcé lundi. Michel Paul nous en fait le compte-rendu.
Prison à perpétuité pour Amiram Ben-Ouliel, âgé de 25 ans, qui en mai dernier avait été reconnu coupable par la cour de l'incendie criminel de la maison de la famille Dawabché, de 3 meurtres, d'une tentative d'homicide et aussi de conspiration en vue de commettre un crime raciste. Ali, un bébé, avait péri lors de l'incendie. Ses parents, Saad et Riam, grièvement brûlés, avaient succombé quelques jours plus tard. Un autre fils avait également été gravement blessé. Ben-Ouliel a été condamné à 3 peines cumulables et à de fortes amendes qu'il devra verser au seul survivant de la tragédie et aussi à l'occupant d'une maison voisine qu'il avait également attaqué à coups de cocktail Molotov. Un crime de haine commis simplement parce que les victimes étaient arabes, a affirmé la juge, qui a été copieusement invectivée par les proches de l'accusé. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et on revient maintenant en Australie où débutent en ce moment les célébrations des 20 ans des Jeux Olympiques de Sydney. Aujourd'hui même, une cérémonie est prévue à l'Olympic Park à Sydney où la flamme olympique va être symboliquement rallumée. Il y a 20 ans, c'est une héroïne du sport australien, la médaillée d'or Cathy Freeman, qui avait allumé la flamme olympique à Sydney. Elle n'a pas pu être présente aujourd'hui car elle est en ce moment confinée à Melbourne. Elle a néanmoins fait part de ses souvenirs concernant ce moment très particulier, un moment particulier pour elle, mais aussi pour l'ensemble de l'Australie.
When I reflect back on lighting the cauldron 20 years ago, the words that come to my mind are surreal and just simply magnificent. It was a symbol of hope for all young Australians. And it's at times like these that I reflect and I ponder the power of sport and the difference that sport can make in all of our lives.
Et je vous parlais en début de ce journal d'un possible assouplissement aux frontières de l'Australie méridionale. Eh bien, quelques informations en la matière viennent de tomber. Alors, il n'y aura plus de quarantaine pour les habitants de Canberra qui se rendent dans cet état par avion. En revanche, la quarantaine reste obligatoire s'ils arrivent en voiture. Et pour ce qui est des habitants de Nouvelle-Galles du Sud, pour l'instant, aucune décision n'a encore été prise. Et pour finir ce bulletin, on jette maintenant un œil à la météo de ce mardi. 25 degrés et du soleil à Perth, 20 degrés à Adelaide, 22 degrés à Sydney où on espère des éclaircies dans l'après-midi, 17 degrés à Melbourne où il fait très beau, des nuages à Brisbane où le thermomètre affiche 25 degrés et grand soleil à Cairns avec 34 degrés.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.